France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. Ça ne cesse jamais. Des couches au biberon, puis plus tard des devoirs aux sorties extrascolaires, encore plus tard de l'inscription à Parcoursup aux autres démarches pour trouver un stage. Épuisant. Et si ce n'était que ça, parce qu'il y a aussi le boulot, les tâches de la vie quotidienne, les obligations familiales. Et voilà comment les parents se retrouvent débordés, des situations qui parfois conduisent à un burn-out parental. Mais deux bonnes nouvelles. Un, vous n'êtes pas seul. Deux, on peut s'en sortir. On attend vos témoignages au 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous laisser une note vocale sur l'application de France Inter ou un message sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes le mercredi 5 mars. Vous écoutez France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
Oh oui. Une coupe vite.
Oui, maman, viens. Elle a soif, elle a soif.
Oh non, je m'en fous, je bois quand même. Voilà.
Bon, alors du coup, à quoi on trinque?
Ah, Eva, j'ai pas une grasse mat jusqu'à 8h15. Wouh. Folie. Chez vous, il se lève tôt?
8h15.
7h10 max, ouais.
C'est pareil.
Oui. Alors vous, avec les jumeaux, vous faites comment?
Ah ben nous, on dort plus. On fait des sortes de mini-comas de 20 minutes.
Oh là là.
Extrait du film Avec ou sans enfants d'Elsa Blayot qui est sorti en salle en février. Ce matin, à mes côtés, Julien Bisson. Bonjour Julien.
Bonjour Eva.
Vous intervenez quand vous voulez, comme d'habitude. Et trois invités nous ont rejoints pour tenter de répondre à cette question. Comment aider les parents débordés? Bonjour Aline Nativali-Damouf.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine de l'enfance, de l'adolescence et de la famille. Vous avez publié un excellent livre, je serais tentée même de dire un guide, intitulé Burnout parental, et c'est aux éditions Mardaga. Bonjour Benjamin Muller.
Bonjour Eva.
Journaliste et auteur. Vous avez longtemps officié à la maison des maternelles sur France 2 avant de rejoindre l'équipe de Bonjour sur TF1 aux côtés de Bruce Toussaint. Vous êtes le créateur avec votre femme Céline Kallmann du podcast Encore une histoire qui se décline aussi en livre. Et vous m'avez dit, j'ai un scoop.
C'est que ça va même être sur scène, début juin.
Incroyable, un spectacle.
Le podcast devient un spectacle.
Formidable. Donc
c'est quelque chose. Et annoncer ça sur France Inter, radio des podcasts,
ben voilà.
C'est assez cool.
Et vous arrivez aussi ce matin avec un ouvrage réjouissant, le dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé avec des illustrations de Mathieu Sapin. Je précise que vous êtes le papa de trois enfants.
Oui, et que je suis débordé, allez-y.
Et voilà, non, j'allais vous demander combien d'heures de sommeil cette nuit.
Non mais le problème c'est que ça y est, moi mes enfants redorment, mais vous savez, ils vous pètent tellement le sommeil qu'à partir du moment où ils redorment, on est déréglé, ouais. Donc moi je me réveille maintenant toutes les deux heures, ça y est, je suis foutu.
C'est foutu.
C'est ça que je veux dire aux gens qui nous écoutent, si vous êtes dans le dur, sachez que c'est que le début.
Bon, alors justement, vous en avez un à côté de vous. Bonjour cher Mathieu Madignon.
Mais à la base c'était pour se remonter le moral, je venais moi.
Ah non, pas du tout.
Parce que là j'écoute, il n'y a que des spécialistes, j'ai écouté ton intro, là j'ai envie de me mettre une balle, ça va pas s'arranger en fait.
Ah, combien d'heures de sommeil cette nuit?
Cette nuit c'était super parce que hier soir, j'étais en gala à Marseille, donc quand je pars en gala, là, je peux dormir à l'hôtel et là, je fais mes nuits.
Ah, voilà. Donc là, une nuit complète, ça.
Là, ouais, une nuit complète de 6 heures sans avoir quelqu'un qui vienne me faire papa, papa, papa.
Voilà, vous avez bonne mine, d'ailleurs, Mathieu Madignon.
Sérieux?
Mais oui.
Ah non, c'est vrai?
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai que
non,
je suis beau gosse.
Mais du coup, Madame Madignon a passé une nuit moins confort.
J'ai lu au téléphone tout à l'heure, c'était assez terrible. Donc voilà.
Je précise pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, Mathieu Madignon,
je suis spécialiste de l'enfant.
Pédopsychiatre. À l'hôpital Necker.
Humoriste, comédien et papa, parce que c'est vraiment un métier et une source d'inspiration. Votre fils Milo est au cœur de votre dernier spectacle, ouais. à pleurer de rire. Vous jouez les vendredis et samedis à 21h, c'est au Solo, c'est dans le 11e ouais. arrondissement de Paris. Le 26 avril, vous serez à La Cigale et en juillet, au Festival d'Avignon. Et votre compte Instagram est une somme de scènes cocasses qui parle de Milo, beaucoup de Milo, ouais. Comme celle-ci que j'adore. Vous décidez de traduire les comptines de votre fils, mais à votre façon.
Je vais te traduire les berceuses, d'accord? Alors voyons. Est-ce que tu te rends compte que tu as le meilleur papa du monde? Et si tu dors pas la nuit, tu vas finir à la DAS. Dors toute la nuit et laisse ton père se reposer, sinon il va vraiment t'abandonner. Voilà. Joyeux Noël.
Vous avez honte, Mathieu Madignon, ou pas?
Non, il est super, mais c'est vrai que c'est... Tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils sont prêts, il y a des gens qui disent « je suis prêt pour avoir un enfant », mais en fait, personne n'est vraiment prêt, tu ne peux pas être prêt à ce truc-là. C'est impossible que tu en aies un, deux, trois, moi j'en ai qu'un. Donc,
Vous aviez idéalisé, en fait, la naissance de votre enfant?
Tu t'imagines tellement de choses, mais rien ne se passe comme tu l'imagines. Quand on te dit « tu vas élever un enfant », il t'élève autant que toi, tu l'élèves. Tu découvres des trucs sur toi, et c'est impossible. Moi, les gens qui disent « je suis prêt », tu sais, j'ai l'impression de, je fais pas de surf, mais tu sais, de tomber dans une vague et d'être dans le remous et d'essayer de respirer. Ça se passe bien, hein, mais enfin, lui, comme quand on dit « tiens, faire ses nuits », oui. Nous, lui, il est fait ses nuits. Lui, il est fait. Il est très heureux. Il fait ses heures. Il est parfait, lui. Mais c'est nous, on est complètement défoncés.
Mais alors, cette histoire de sommeil, je me tourne vers vous, Aline Nativelle-Idamou. On plaisante un peu là, mais oui. C'est quand même une des principales problématiques des parents quand bébé débarque. Vous rapportez dans votre livre le témoignage de Virginie. Elle a 35 ans. Elle a deux enfants. Quand elle vient vous voir, ils ont 5 et 2 ans. Elle n'en peut plus de ne pas dormir. Elle rêve d'une sieste. D'ailleurs, vous la laissez dormir 45 minutes. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit à l'issue de ces 45 minutes ?
Qu'elle avait besoin de dormir,
ouais,
et qu'elle
ça,
n'avait
quoi.
Pas cet espace pour dormir. Mais c'est vrai que, par exemple, la nuit à l'hôtel, bah, c'est super, et je le recommande aussi à certains parents, dans le couple parental, de s'organiser pour les nuits.
Ouais.
Histoire qu'il y en ait au moins un qui puisse un petit peu se reposer. Mmh. Pareil, hein, les siestes à fond, avec son enfant, quand on peut, ou même sans lui. C'est vraiment super important, le sommeil, pour la dynamique physiologique, psychologique. Mais effectivement, on en a à peu près jusqu'aux 6-7 ans de l'enfant, pour être un peu déréglé. Et puis après,
mais
il y a d'autres choses.
Est-ce qu'on peut le louer
passe.
Avant Est-ce qu'on peut
6-7 ans.
Alors, mais après, il y a d'autres trucs qui arrivent en
plus.
Mais ça
début,
s'arrête jamais, en fait.
Non.
Mais pourquoi personne ne nous prévient? Faites un livre là-dessus.
Il y en a beaucoup, des livres, on va en parler.
Il y en a beaucoup, des livres. Mais justement, il y a quand même un phénomène de tabou sur certaines thématiques en lien avec la parentalité. Alors, c'est un grand 8 hein, émotionnel. Donc, il y a des moments qui sont quand même sympas. Et puis, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. On a le droit d'être dans le flou, on a le droit d'être un peu perdu. Mais surtout, il ne faut jamais rester seul.
Oui, on va en parler de l'aide dont on a besoin. Et qu'il faut réclamer, vous en parlez beaucoup, oui. Benjamin Muller, dans ce
dictionnaire.
Moi, je
trouve quand même qu'on va dans le bon sens, parce qu'il y a une période, en gros, la génération, à mon avis, de nos parents, on leur disait uniquement, devenir parent, c'est la plus belle chose du monde, et réjouis-toi, sois content, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Après ça est arrivée une génération, qui je dirais un peu notre génération de parents, où ça y est, on parle quand même beaucoup des problèmes, des difficultés, voire presque même un peu trop. Moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, quand on m'annonce, ah, je vais être papa, je vais être maman, j'ai peur, mon Dieu, mon couple, on va se séparer, on fera plus jamais l'amour, je vais prendre 15 kilos, mon gosse sera insupportable. Et donc, il faut une petite période de juste milieu. De dire,
t'es venu
oui,
chez moi, toi.
Non, mais par exemple, ce que fait Mathieu sur son Instagram, je pense que tu ne soupçonnes pas, à mon avis, à quel point ça aide des gens. C'est que je suis persuadé de ça. Quand on est dans le dur, avoir des conseils d'experts, c'est une chose. Et voir des gens qui en rigolent et qui permettent. Parce qu'en voyant tes vidéos, on se dit aussi.
On dédramatise aussi.
Il est comme moi. Il est comme moi, ça fait du bien. Et c'est tellement mieux que des influenceurs qui te montrent des photos de chambres super bien rangées, d'enfants hyper bien élevés, bien mieux élevés que tes enfants. Et ils disent, oh, dans mon couple, on se ferme. Vous savez, le pire, c'est les couples qui se mettent en photo au restaurant et qui disent, pendant que bébé est gardé par les grands-parents, on se fait un petit resto en amoureux.
C'est quoi un restaurant?
Tu vois? C'est un vague concept.
Mais c'est très intéressant, cette question des réseaux sociaux, parce qu'il y a un double effet des réseaux sociaux. Il y a effectivement, c'est le meilleur moyen pour se comparer à des comptes où vraiment, comme vous dites, c'est la maison idéale, les enfants parfaits,
et
les parents heureux.
Ils nous renvoient à notre médiocrité.
Exactement. Et puis, en même temps, les réseaux sociaux, c'est aussi trouver des communautés à travers lesquelles on peut partager de difficultés. Est-ce qu'il faut couper Instagram ? En quelque sorte.
Non, alors non, pas du tout. Il ne faut pas couper Instagram. Faut savoir, je pense que c'est un sujet qui est très important, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut savoir qui on suit. Et il faut enlever les gens qui nous renvoient à notre médiocrité, à ce qu'on fait mal. Il y a quand même plein de gens qui vont vous expliquer comment élever vos enfants. Ce que moi, j'essaie de ne pas faire dans les livres ou dans les trucs, j'essaie de surtout pas dire aux gens voilà ce qu'il faut faire. En revanche, donner des conseils de bon sens sans leur dire vous êtes nul, c'est quand même la base. Et par ailleurs, abonnez-vous à des comptes comme celui de Mathieu. Oh. Abonnez-vous à des comptes de gens qui vous aident à vous dire ok, on est tous dans le même bateau. On galère, mais on va s'en sortir.
Mathieu Madénian, vous en suivez des comptes, notamment sur les réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez lu beaucoup de littérature sur...
Non, alors on m'a filé plein de livres, et il y a plein de comptes. Parce que, en fait, quand tu poses des trucs sur Insta, on t'envoie des comptes et tout. Mais en fait, ça te. Trop d'infos tue l'info. C'est mes parents qui me disaient fais de ton mieux.
Ouais.
Tu vas te tromper. Ouais. Mais le fait de faire de son mieux, tu ne pourras pas faire mal. Ou
c'est
du moins...
Winnicott qui disait il faut être un parent suffisamment bon.
Oui.
Et je pense que c'est un objectif. Voilà, il faut être suffisamment bon, quoi, faire le mieux que l'on peut.
Je pense que vous êtes d'accord, Aline Nativelle-Idamou, avec ce que vient de dire Mathieu.
Ah bah, clairement, il faut s'accorder le droit à l'erreur, il faut s'accorder d'avoir besoin de quelqu'un, il faut s'accorder des temps de pause. Ce n'est pas toujours évident, il y a des périodes qui sont plus difficiles dans les stades de développement de l'enfant. Donc c'est vrai qu'on a le droit parfois d'être totalement perdu. Mais vraiment, j'insiste sur le fait de ne jamais rester trop longtemps tout seul.
Oui.
Vraiment.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même, c'est ce que vous disiez, Benjamin, les parents sont surinformés, il y a beaucoup de messages contradictoires, des injonctions dans tous les sens. Comment on gère ce trop-plein de conscience? Et j'ai parfaitement conscience qu'on participe au truc aujourd'hui en faisant l'émission. Mais,
c'est toute la difficulté.
Toute la difficulté, oui. Comment on fait aujourd'hui pour que les parents ne se sentent pas oppressés et se disent « mais il faut absolument que je sois le parent parfait avec un enfant parfait ».
Alors c'est très difficile parce qu'en tant que parent, on s'investit dans sa parentalité avec des idéaux. Donc c'est vrai que parfois il faut prendre un petit peu de recul en fonction de ses attentes et aussi les exigences qu'on se porte à soi mais aussi à son enfant. Donc comme je dis, c'est communiquer, partager, être dans le soutien, c'est-à-dire qu'on peut aussi en parler avec d'autres parents, on peut en parler avec les membres de sa famille. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire le tri. Même les experts, parfois, ne sont pas d'accord entre eux sur certaines théories. J'ai envie de dire aux parents, faites-vous confiance, d'abord, soyez intuitifs, et puis vous faites une erreur, c'est pas grave, vous pouvez toujours réparer, de toute façon.
On va continuer à en parler du droit à l'erreur quand on est parent. Cette injonction à la perfection, elle conduit parfois au burn-out parental. Nous allons en parler aussi dans la suite de l'émission. Julien Bisson, vers 10h40, on va aussi vous donner la parole, le sujet de votre chronique aujourd'hui.
Et ben on va se demander si les vacances sont vraiment le meilleur moment pour se reposer.
Ah voilà, mais ça Mathieu Madignan, il ne le connaît pas encore.
Pas de vacances, les vacances pour les parents, c'est tu t'occupes de ton enfant, mais dans un autre lieu.
Voilà, c'est ça, exactement.
Voilà, c'est tout, hein.
Mais on va y revenir, mais pour l'instant...
Non mais un jour ils iront à l'école, voilà. Un jour ils iront à l'école ton fils.
Oh, mais là, attends, tu sais ce qu'il a fait? Il est allé à la crèche, tu sais ce que le coup qu'il me fait? On a fait la séparation, il pleure plus, il m'a brisé le cœur.
Ah bah voilà.
Déjà il se sépare. Réjouis-toi, ça veut dire que t'as bien
mais
fait les choses.
Ça m'a fait mal, je l'ai laissé, il pleure pas. Quel ingrat.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
J'ai des troubles de l'attention, je passe du temps à rechercher des choses que j'avais préparées pour partir avec. Donc je rate mes rendez-vous parce que je trouve pas les choses avec lesquelles je dois partir. Non.
Qu'est-ce qui change quand on a un enfant en plus de ça?
Je sais pas pour les autres, mais...
Mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé?
Moi, je peux pas gérer de discuter avec quelqu'un d'autre et de m'occuper d'elle.
D'accord.
C'est dur.
C'est compliqué pour vous, là,
non,
de
je peux pas. Bah ouais, je peux pas.
Témoignage d'une maman dans un reportage d'Envoyé spécial diffusé sur France 2. Elle semble totalement dépassée, mais comment ne pas être débordée quand on est parent? C'est la question qui nous taraude dans Grand Bien vous fasse ce matin, question à laquelle nos trois invités tentent de répondre. La psychologue clinicienne Aline Nativelle-Idamou, le journaliste et auteur Benjamin Muller et le comédien humoriste papa en un seul mot, je l'ai écrit.
Spécialiste
en parentalité. Mathieu Madignan. Mathieu, d'ailleurs, vous avez dit avoir perdu un peu de votre insouciance en devenant papa.
Ouais.
Est-ce que vous avez eu des angoisses? Et est-ce que vous en avez encore, si vous en avez eu?
Déjà, on perd son insouciance en prenant de l'âge, mais dès que tu as un bébé, tu perds... Déjà, tu as peur de mourir. C'est con, hein? Moi, j'ai un vélo. Maintenant, le casque, je l'attache bien. Tu sais, j'ai des réflexes que je n'avais pas avant. On parlait tout à l'heure du scandale des crèches. Tu vois, moi je sais que le premier mois, je passais par-dessus les rosiers, là, tu sais, de la crèche, et je me collais à la vitre
pour
regarder ce qui se passait. Et c'est la directrice de la crèche qui m'a dit, faut vous inquiéter le voisinage. Parce que pour moi, j'étais un parent modèle, mais pour les voisins, j'étais un pervers qui regardait des enfants à travers une baie vitrée. Mais c'est vrai que tu flippes sans arrêt. Là, je me dis, est-ce que j'appelle la crèche deux fois par jour? Alors, je ne sais pas s'ils font tout ça, mais je demande,
j'espère,
est-ce qu'il a dormi, est-ce qu'il a mangé et donc voilà, je suis le papa de Milo relou.
Et est-ce que vous en parlez avec votre femme de tout ça? De ces angoisses que vous avez? Parce que ça ressemble quand même à des angoisses.
Ouais, c'est des angoisses, mais je pense qu'on se les transmet et je prends sa petite charge. Enfin, là, cette charge-là, c'est moi qui gère un petit peu la crèche, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a dormi, je vais le chercher, je le ramène, voilà, ça c'est mon boulot.
Benjamin Muller, si je me permets de poser cette question à Mathieu Madignan sur le couple et sur la discussion avec sa femme, c'est parce que ce sujet du couple, il est central quand on parle de parentalité. Une des premières entrées de votre dictionnaire, c'est baby clash.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que le baby clash?
Le baby clash, je pense que c'est quelque chose... À mon avis, 99,9% des couples y passent. C'est-à-dire qu'avant, on est un couple, on pense qu'à son couple, qu'on pense qu'à soi, et du jour au lendemain, on se retrouve à deux contre un petit peu. Donc forcément, ça va changer. Tous les équilibres vont se révéler les vraies personnalités des uns et des autres. Alors, idéalement, il faut être équipe. Et même si on est équipe vraiment main dans la main, il y a toujours des moments de tension. La fatigue aidant, c'est là où on va avoir des petits mots qui vont aller contre l'autre, etc. Donc le baby clash, c'est quoi? C'est cette période qui dure... un petit moment quand même. Enfin, je veux pas effrayer les gens qui attendent des bébés, mais c'est quand même bien de le savoir, parce que je pense que s'anticipent les questions et les problèmes. Je pense que c'est bien de poser, avant d'avoir son enfant, selon toi, l'éducation, les grands piliers, qu'est-ce qu'il doit être, etc. Et alors, je pense qu'il y a quand même plusieurs choses pour s'aider. L'humour, ça aide beaucoup, si on réussit dans le couple, à avoir de l'humour, et surtout se faire aider. Là, on y revient. Moi, je trouve que les médecins généralistes, les PMI, les puéricultrices, les infirmières, les sages-femmes, pour les femmes, sont quand même... Moi, je trouve que les médecins, maintenant, sont formés à accueillir cette parole-là, et c'est pas tabou. Faut pas hésiter à aller en parler et demander de l'aide.
Vous êtes d'accord, Alina Tivali Damo? Ouais.
Tout à fait. Le baby clash, c'est un passage un peu obligé, mais c'est pour remanier. C'est-à-dire qu'on était un couple conjugal, et là, on devient un couple parental.
Il faut que chacun trouve sa place, en fait, dans cette...
Oui, c'est pas assez évident. Familiale, ça prend à peu près, grosso modo, une bonne année. Et puis après, on doit se réinventer, toujours et encore. Donc ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais il y a des côtés aussi super sympas dans la parentalité.
C'est ça, le couple se réinvente, mais il n'est pas moins bien après. Il est juste complètement différent.
Tu te disputes différemment. Nous, on se dispute avec le sourire.
C'est vrai?
Parce que, l'enfant. Non, mais parce qu'il ne faut pas que l'enfant voit les parents se disputer. Donc on a l'air de psychopathe à faire. Mais non, t'arrêtes tes conneries. Allez, cette espèce de smiley.
Alors, tu viens dans la chambre, tu dis quelque chose.
Je te parle là, tout de suite.
Viens voir, je ferme la porte.
C'est marrant ce que vous dites sur le sourire, parce que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, évidemment, on parle des tensions et de ce côté où on est complètement submergé par tout ce qui. Par tout ce qu'on a à faire quand on a un enfant. Mais quand vous voyez le sourire de votre enfant, généralement, ça efface un peu quand même.
Ouais, alors, Eva, ça dépend, il faut le dire vite.
C'est une connerie, ça. S'il te nargue, alors vas-y, ça se voit que ça va, toi.
Eva, à 3h du matin, il peut sourire, être très mignon.
Non, mais ça va pas ou quoi? Allez, question suivante.
N'importe quoi. Mais parce que j'ai pas d'enfant.
Oh, le sourire de ton enfant, on dirait que tu veux devenir Miss France. Quand tu vois le sourire de ton enfant, tous tes soucis, il sourit.
Mathieu Madagnan, soyez clair. Quand il vous sourit, Milo, vous vous fondez pas. Merci.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est. Il a ce côté-là. Mais c'est vrai qu'à 3h du mat, quand il te. Oui, c'est vrai que... En plus, maintenant, il marche. Alors, il y a ça aussi. C'est que maintenant, quand il marche... En fait, tout change en fonction de l'âge, en fait. Oui, parce que quand il est par terre, donc le danger, il est par terre. Mais après, il est à quatre pattes. Après, il monte. La nuit, quand il bouge, je te jure, des fois, je me dis, j'espère que c'est un cambrioleur. Au moins, à la rigueur, il m'attache, cambrioleur. Je finis ma nuit. Et je l'entends arriver. Il fait « Papa, papa, est-ce qu'il vient me réveiller, moi ?» Il sait que sa mère dort. Alors moi,
il a compris que c'était vous.
Il a compris qu'elle était le faible dans la maison.
Ou alors c'est votre femme qui a tout compris aussi.
Je pense qu'elle le brief.
Alors on a parlé du baby clash, mais Aline Nativali Damou, j'ai aussi découvert dans votre livre le daddy blues. C'est vraiment pour finir de massacrer Mathieu Madagnan. Qu'est-ce que c'est que le daddy blues?
Eh ben c'est en fait un papa qui peut ressentir une forme d'humeur dépressive, hein, quelque chose en lien avec tout ce qu'il avait projeté sur la parentalité, son couple, etc. Et puis après il y a le principe de réalité. Il y a un petit coup de mou, quelque chose qui fait que c'est pas vraiment à ce quoi je m'attendais, et puis mais ça dure pas très longtemps.
Ouais.
Et c'est aussi un remaniement psychique, identitaire, qui fait que allez, là j'y vais, je suis dans le principe de réalité, et puis je vais y arriver. Et on va y arriver.
Je voudrais vous faire écouter un témoignage qui est extrait d'un reportage diffusé sur Arte.
J'ai dit des choses horribles à mes enfants, ou peut-être des gestes déplacés, ouais. Moi, j'ai honte de le dire, hein, mais je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus la même qu'avant et qu'on a honte d'être comme ça.
Ce reportage portait sur le burn-out parental. C'est difficile pour des parents de dire stop, j'y arrive plus, j'en peux plus de mes enfants, je les supporte plus. La culpabilité, elle est beaucoup trop grande dans ces moments-là, en fait.
Oui, la culpabilité, la honte, justement, de ne pas être le parent qu'on souhaite être et puis de ne pas avoir réussi à gérer les fameux stresseurs parentaux. Surtout dans le burn-out parental, le symptôme le plus difficile, c'est la distanciation affective avec son enfant.
C'est-à-dire
qu'on ne prend plus aucun plaisir à être avec lui, à lui faire des câlins, des bisous, à jouer.
On devient des machines, quoi.
Voilà, on devient un parent robot et finalement, il y a une prise de conscience qui est plus ou moins complexe. Et là, on ressent un flot d'émotions négatives envers sa parentalité.
Alors, c'est les premiers signes qui indiquent éventuellement un burn-out parental, cette distanciation notamment?
Oui, vraiment, ça c'est le symptôme clé, parce qu'on peut être épuisé, on peut être fatigué, ça arrive en tant que parent, mais c'est surtout la chronicité, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment très stressé, on n'a plus envie de faire des bisous, des câlins, des choses qui sont normalement les plus sympas avec son enfant, et là même ça, on est en mode « j'ai pas envie, ça me donne pas envie », et puis même on repousse l'enfant.
Et il y a des solutions, j'imagine.
Tout à fait, bien sûr, il y a des solutions.
Changer d'enfant.
Ça malheureusement, c'est
changer
pas
le
possible.
Modèle.
Accepter l'enfant qu'on a aussi, accepter aussi le coparent, et puis toujours accepter de l'aide, de l'entourage, et vraiment prendre tous les environnements, parce qu'on est l'adulte de référence de son enfant, mais il y a d'autres adultes possibles qui peuvent l'aider à grandir.
On parle beaucoup de ce mot « aide », on l'a beaucoup prononcé là depuis le début de l'émission, mais on n'est pas tous égaux face à l'aide éventuelle, il n'y a pas toujours les grands-parents. enfants. Je pense aux mamans et aux papas solo, c'est encore plus difficile pour eux. Comment on fait quand on va à cette surcharge parentale, comment on la gère, quoi?
Mais surtout qu'on a complètement changé les modèles familiaux ces dernières décennies, où c'est vrai qu'il y a une génération, deux générations, les familles vivaient ensemble, les familles vivaient proches, les grands-parents...
Ou en tout cas dans la même région, dans la même ville.
Et puis les grands-parents acceptaient leur rôle, qui était ceux d'être des relais pour les parents. Aujourd'hui, pour tout un tas d'explications, c'est plus le cas. Les grands-parents travaillent plus tard, n'ont pas forcément envie de s'occuper de leurs petits-enfants, et je leur jette pas la pierre, je veux dire, je comprends tout à fait. Mais donc les parents se retrouvent plus seuls avec des relais familiaux, ce qui était plus inné avant, de moins en moins le cas. Donc cette solitude, il faut quand même dire un mot des mamans solo, ce qui est quand même la majorité des couples. Parce que là, tout ce dont on parle, c'est quand il y a un papa et une maman, ou deux papas, deux mamans, peu importe. Quand les mamans se retrouvent seules, là, c'est là où l'entourage doit mettre un grand warning. Et venir de soi-même dire, je suis là, je peux t'aider. Si les gens qui nous écoutent ont dans leur entourage des mamans solo de jeunes enfants, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour dire, si de temps en temps tu veux que je t'aide, etc. Ça ne veut pas dire que l'autre est en burn-out, mais c'est les petites choses qui, franchement, change la vie, je vous le dis, parce que nous, dans notre moment d'un petit difficulté, on a une amie, je me souviens, qui nous avait apporté, vraiment quand on était dans le dur, de manque de sommeil, un plat de lasagne tout fait, qu'on avait juste à réchauffer. Je m'en souviens encore, ça paraît rien, mais plutôt que d'offrir un body, offrez un plat de lasagne tout fait. Et franchement, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était un bonheur.
C'est ça la solution.
Ben oui, c'est des petites attentions.
Mathieu m'a dit, est-ce que vous avez des gens autour de vous pour vous aider?
Nous, non. Nos parents sont... les parents de ma femme habitent plutôt Dijon. Moi, c'est dans le sud. Non, on n'a pas de... On arrive à gérer quand même... Oui. Enfin, on y arrive, j'espère. C'est le petit qui le dira plus tard. Mais on a...
Il ira chez le psy comme tout le monde.
Oui, il ira chez le psy, c'est ça. Mais moi, j'essaie d'être le plus présent possible aussi, parce que moi, je viens d'un modèle où le papa... n'était pas là. Enfin, moi, j'ai été élevé par un papa qui partait le lundi, qui rentrait le vendredi. C'était la maman qui avait toute la charge de l'éducation. Maintenant, on est. Alors, je dis pas que ça sauve les mamans, mais il y a dans les couples qui restent ensemble après la naissance, ça équilibre un petit peu la charge de l'enfant.
C'était la question que je voulais vous demander. Est-ce qu'en devenant père, vous avez pensé à l'éducation que vous avez reçue, à la façon dont vos parents vous ont géré, éduqué?
Moi, j'ai été élevé dans un modèle très patriarcal, c'est-à-dire t'es un homme, tu pleures pas, tu fais un sport de mec, je fais moi foutu au rugby, moi, t'imagines? Non, rigole pas, c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Et donc voilà, donc mon fils, je vais essayer de faire un peu mieux que ce que mes parents ont fait. Donc si mon fils il a envie de pleurer, ben il pleurera, parce que le problème c'est ça aussi. Moi on m'a dit faut pas pleurer, donc j'ai gardé tout ça là en moi, je l'ai tassé, et maintenant quand je regarde L'amour est dans le pré, ça lâche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Sauf donc, que vous avez pas le temps de regarder L'amour est dans le pré.
C'est vrai, c'est vrai.
Par contre, Peppa Pig que vous pleurez peut-être.
Ah oui, c'est vrai. Mais par contre tu vois, il y a une émission qui m'interroge. C'est Famille Nombreuse. Vous avez vu cette émission? Ils sont combien? 14, 12, 11, 8?
Oui, c'est plus de 6.
Comment ils font? Ça, pour moi, c'est de la science-fiction. Ouais. Vraiment. Je vois, ils ont deux bagnoles, des fourgons, ils enquillent leur gamin là-dedans, et ça a l'air de bien se passer. Je serais curieux de voir l'envers du décor de ces familles-là.
Je ne sais pas si ça vous soulagerait par ailleurs par rapport à votre propre parentalité. Mais enfin,
Je crois que non.
Aline Nativelle-Idamou, par rapport à ce schéma familial dont parlait Mathieu Madénion, est-ce que ça pèse aussi sur notre conception de la parentalité et sur la façon dont on gère au quotidien nos enfants?
Alors oui, on dit en psychologie qu'il y a quelque chose qui fait qu'on revient vers le passé, vers les parents qu'on a eus, l'enfant qu'on a été, et ce qui fait aussi que ça marque quelque chose dans notre investissement en tant que parent. Le parent qu'on veut être, et le parent idéal. Souvent, on ne veut pas faire les mêmes erreurs que ses parents, ou on veut faire mieux, voire pareil. Et donc, c'est vrai qu'il y a une grande importance des parents qu'on a, et qui font que parfois, il y a du copier-coller, ou au contraire, c'est un contre-modèle total, et que justement, nous, en tant qu'enfants, on se dit, bon, bah, moi, je me rappelle d'avoir vécu ça et ça, mais ça peut mettre aussi une forme de pression, parfois. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on est toujours... Mais c'est quelque chose de très important pour s'investir dans sa parentalité.
Mais on voit quand même que les pères s'investissent beaucoup plus que les générations précédentes.
Oui, tout à fait. Moi, en consultation, j'ai plus de papas maintenant qui sont en guidance parentale, qui demandent des conseils, qui sont en mode la charge mentale, qui vont sur Instagram, qui lisent.
Pardon de vous couper, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que vraiment la guidance parentale? Parce que ce terme n'est pas forcément connu de tous nos auditeurs et auditrices.
La guidance parentale sont des consultations auprès d'un psychologue qui a l'expertise de la parentalité de la famille. Et donc, c'est simplement un parent qui vient en consultation et qui peut poser toutes les questions qu'il veut sur sa parentalité, sur les stades de développement de l'enfant. Donc, en fait, c'est un éclairage, justement, sur les comportements, les styles parentaux. Et surtout, souvent, c'est des préconisations le plus personnalisées possible. Et ça, c'est pas toujours ce qu'on retrouve dans les médias ou dans les livres.
Oui, où il y a un discours global, en fait.
Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est adapté vraiment à la question, aux besoins du parent. Et puis souvent, ils décident ou pas de venir une fois par mois. En fait, c'est eux qui décident après de ce qu'ils mettent en place par rapport à l'enfant. Il y a un suivi.
Benjamin Muller, ça fait partie des aides qu'on
oui,
peut
absolument.
Avoir,
ouais. Effectivement, je trouve que de personnaliser, c'est une bonne chose. Parce que, disons les choses, tous les différents phénomènes qu'on peut appeler Montessori, éducation positive, éducation bienveillante, à chaque fois, ce sont des bonnes choses. Sur le principe, il n'y a pas de problème. Sauf que, mis dans la main, dans la tête et dans l'esprit de tout le monde, tout est déformé, on ne sait plus exactement ce que ça regroupe. Mmh. Et ça met une pression de fou sur les parents. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer que l'éducation bienveillante, typiquement l'exemple, c'est tu fais tes courses au supermarché, l'enfant fait une colère parce qu'il veut un bonbon, il faut se mettre à sa hauteur et dit « Je comprends ton émotion négative, toi tu aimerais avoir des bonbons, malheureusement, etc. »
C'est moi qui hurle pour avoir les bonbons, c'est ma femme qui fait « Je comprends ton émotion négative. »
Et en fait, dans la vie de tous les jours, le vrai parent qui a ses problèmes, qui a ses sujets, etc., qui a le droit de prendre son enfant et faire « Non en fait, t'auras pas de bonbons, c'est comme ça. » C'est en ça que Caroline Goldman, qui a beaucoup fait ça sur France Inter, elle, qu'est-ce qu'elle prend pour juste dire ça. C'est-à-dire que je pense que les concepts comme l'éducation bienveillante, qui sont des bons concepts, mettent beaucoup trop de pression sur les parents qui écoutent ça, d'où l'importance d'avoir des conseils personnalisés en guidance parentale, ou une fois encore avec les généralistes ou les PMI, qui peuvent avoir le bon... Parfois, on manque de bon sens aussi en tant que parent.
Oui, c'est ça, c'est le mot bon sens quand même a toute sa place dans cette discussion qu'on a depuis 10 heures.
Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'après, quand on est submergé par des angoisses, des questions, on perd le bon sens. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de parents, je leur dis, mais vous savez ce que votre enfant traverse, c'est normal. Et en fait, c'est juste parfois une réassurance de dire, ah bah oui, ok, c'est normal. Et en fait, le parent, après, il est...
Il va mieux, ouais.
Bah oui, il va mieux. Donc en fait, c'est normal ce que vous ressentez, c'est normal ce qui se passe pour votre enfant. Allez-y, faites-vous confiance, et ça ira.
Benjamin Muller, vous avez 3 enfants, je le disais en ce début d'émission. Vous avez galéré? Vous avez eu des moments où vous étiez totalement débordé?
Ah oui, ouais, j'en ai eu beaucoup. Notamment dû à la fatigue, où je me souviens, je travaillais sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, où on s'est connus d'ailleurs, là, Europe 1, pour ne pas les citer, où j'allais faire des micro-siestes aux toilettes, 2 ou 3 fois par jour, où j'allais me mettre aux toilettes, je fermais la clé et je dormais 15 minutes aux toilettes. Parce que je dormais que 2 heures par jour, j'avais un sentiment de torture physique avec ce manque de sommeil. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne savais plus, j'avais l'impression d'avoir un mur devant moi et de plus savoir ce que je faisais de bien, pas bien, j'étais en pilote automatique. Et donc, burn-out, etc., je ne sais pas dans quelle mesure, mais j'ai connu ça. Et c'est important de dire aussi, on en sort.
Oui. C'était au premier enfant ou vous l'avez vécu un petit peu et de façon différente avec les 3?
En fait, le premier enfant, c'est 2 contre 1, c'est un énorme chamboulement. Le 2 contre 2, ça devient... on trouve une petite stabilité au 2 contre 1, le 2 contre 2 vient tout chambouler. Et en revanche, je trouve le troisième, il y a quand même un peu plus de facilité. Ouais. On se met aussi moins de pression. Le premier enfant, moi je me souviens quand elle jouait par terre dehors, j'avais tout le temps le petit gilet alcoolique, on lui nettoyait les mains, etc. C'est nickel. Le deuxième, il jouait par terre, on lui disait vaguement, on va te laver les mains avant de manger. Le troisième, il mettait un mégot dans la bouche, on se disait, ah, ça va lui faire l'immunité. Il y a un peu de ça. Il y a quand même un peu de ça, et du coup, je pense qu'on est le meilleur parent au troisième.
Mais de toute façon, vous n'avez pas le temps avec 3 enfants de vous occuper vraiment du troisième, non? C'est pour ça que vous le laissez un peu faire.
D'ailleurs, il est où le troisième?
Vous savez, le pire, c'est qu'il est en train, actuellement, je le sais, d'écouter cette émission. Ah, et ça doit bien le faire. Mais c'est vrai que, par exemple, ce soir, il y a Liverpool-PSG, je sais qu'il va regarder, il a que 7 ans. Il a 7 ans, normalement, on ne regarde pas un match la veille de l'école. C'est le troisième, on lâche un peu, quoi.
Ouais.
Je pense qu'il faut aussi lâcher un petit peu, on devient des parents un peu plus cool, et puis je pense que c'est celui de mes 3 enfants qui m'en voudra le moins plus tard.
Ouais, déculpabiliser, dédramatiser les situations. Mathieu Madénian, vous avez 48 ans, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui. Vous avez l'impression d'être un papa vieux. Ça vous stresse cette histoire de l'âge ou pas du tout?
Ça ne me stresse pas. Mais tu sais, on est toujours dans la comparaison. Tu peux te comparer sur Insta, mais quand je vais au parc amener le petit, tu te compares aux autres papas, tu vois, et je les vois, ils arrivent, tu sais, ils ont le terrain allé, ils ont 30 ans, leur gamin, ils courent pas. Le mien, moi, je suis là, je les regarde, ils font des boulots, je comprends rien ce qu'ils font. Et tu vois, c'est des trucs... Et c'est vrai que je me dis, ils auront une deuxième vie quand le petit va partir. Moi, quand il partira à la fac, je serai sur mon Stana.
Oui.
Tu sais, et je lui dis au revoir, et j'aurai 70 ans, et qu'est-ce qu'il va... Non, mais c'est ça aussi.
Non, mais on y pense quand même.
C'est moi qui le couche des fois pour la sieste, et la dernière fois il s'est réveillé, parce qu'il a le sommeil léger. J'étais à côté de lui, il s'est réveillé parce que mes os ont craqué en me levant. C'est crac. Il a fait et j'ai fait merde, c'est mes os qui craquent qui l'ont réveillé. Et là je me suis dit putain, j'aurais dû le faire plus tôt.
Dans la famille, parents débordés et dépassés, si je m'en réfère à quelques-uns de vos posts Instagram, il y a quand même les voyages avec bébé qui hurle, mais ça on l'a tous connu, le livre pour enfants qui est beaucoup trop court et beaucoup trop cher.
C'est incroyable ça, il y a 3 pages.
Mais oui.
En coton, ça coûte 12 balles.
Rangement de la poussette, se lever la nuit évidemment, l'appel de la crèche et vos appels à vous. Et pourtant, on survit à tout ça. Est-ce que vous avez été impressionné par votre capacité d'adaptation finalement ?
Est-ce que j'ai été... Je sais pas, en fait, je crois qu'on n'a jamais le recul nécessaire pour se dire ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui m'arrive là, actuellement. La vérité, c'est ça, c'est qu'on vit au jour le jour, et c'est génial, on est très heureux, le petit, il est heureux, on fait de notre mieux, mais c'est vrai que je m'imaginais plein de choses, c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est mieux ce qui se passe, même si je suis... effondré de fatigue, même si on est crevé, même si on est anxieux, même si... Mais je pense que voilà, on a fait un petit être humain, on va essayer d'en faire le meilleur modèle possible. Moi, il va pas regarder Paris, il regardera Marseille dimanche à la télé. C'est la seule différence.
Benjamin Muller. Non,
mon fils regardera Marseille aussi. Ah, ouais. Non, je pense quand même qu'on apprend... Moi, le recul, j'ai l'ai parce que du coup, mes enfants sont un petit peu plus grands et je pense que je soupçonnais pas avoir ces capacités physiques et de patience aussi. Je pense qu'il faut aussi se faire confiance. C'est-à-dire qu'on a des capacités en soi, on va être capable, les gens qui nous écoutent là, qui peuvent flipper de tout ce qu'on dit, ils vont y arriver. Je veux dire, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers à avoir ces difficultés-là. C'est dur, mais on y arrive. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même vrai que le sourire, les moments de câlin, les moments de bonheur. Oui, on était de mauvaise foi. On peut quand même dire que c'est quand même un bonheur extraordinaire d'avoir des enfants.
Mais je pense qu'il faut le répéter.
Et voilà, c'est pour ça que je pense. Il faut le répéter parce que sinon, on est maintenant dans un moment. Tout est anxiogène aujourd'hui. Vous allumez les infos, le flash de tout à l'heure, de 10h, tout est anxiogène. Donc, avoir des enfants, ça reste quand même du bonheur, je tenais à le dire.
Ah, Aline, vous êtes d'accord avec ça hein?
Oui, bien sûr, il y a un épanouissement grâce à la parentalité en tant qu'adulte, bien sûr, évidemment.
Et puis on se découvre, ce que Mathieu disait tout à l'heure, on apprend sur soi. C'est ouf ce qu'on apprend, ça, moi je ne pensais pas être l'homme que je suis.
Tu te descends complètement. Moi, je me suis rendu compte qu'avant, j'étais un mec... Déjà, je fais un métier centré sur moi. Tu penses qu'à ta gueule, c'est un peu ça. Tu es super égoïste, égocentre, tout ce que tu veux. Et quand le petit est né, je me suis aperçu que j'étais comme ça. Et maintenant, ma vie a totalement changé, c'est-à-dire il passe avant, quoi qu'il arrive, il passera avant.
Et c'est même l'objet du spectacle.
Oui, voilà. Je fais de la thune grâce à lui, merde. Mais en fait, j'ai rien appris. Oh, je suis un enfoiré jusqu'au bout.
T'es malin, t'es malin.
Je l'amortis, le gosse.
On va poursuivre notre exploration des affres de la parentalité, mais il est 10h40 et il est l'heure de retrouver un autre papa, Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants.
Après tout, pourquoi pas?
Salut! Merde!
Mon cher Julien, il paraît que vous rentrez de vacances. Est-ce que vous vous êtes bien reposé?
Oui, vous avez vu mes yeux, ma chère Eva.
J'ai
l'impression d'avoir devant vous un homme reposé, un homme au top de sa forme. Si c'est ça le top, alors je veux dire que c'est un niveau de sommet où en cette saison, il n'y a plus beaucoup de neige normalement. On est plus montagne Sainte-Geneviève que Mont Blanc. Mais oui, c'est vrai. Je suis rentré dimanche de vacances et je vous avoue que depuis, je n'ai qu'une envie chaque jour, c'est de retrouver mon lit au plus vite. D'ailleurs, c'est drôle, je me souviens que quand j'étais petit, moi, je devais me coucher à 21h, je n'avais pas le droit de regarder les matchs de foot. Et à ce moment-là, j'avais hâte d'être grand pour me coucher à l'heure que je voulais. Maintenant, je suis grand. Je me couche à l'heure que je veux. Et c'est toujours 21h. Surtout quand on rentre de vacances en famille.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un décalage horaire par rapport aux vacances?
Alors si seulement... Mais non, il n'y a pas de décalage horaire. Le seul décalage qu'on doit affronter lors de ce genre de vacances, c'est celui entre la vision idéalisée de notre vie de famille et la réalité des vacances avec nos enfants. Toute l'année, on se dit qu'on aimerait passer davantage de temps avec eux. Et quand ils sont là 24h sur 24, on se demande quand quelqu'un va bien accepter de les reprendre.
Ouais, vous exagérez un peu, non?
Oui, un peu. La mauvaise foi a toujours été la seule à laquelle je suis resté fidèle. Mais bon, je dois bien avouer que l'expérience m'a appris qu'en réalité, quand on est parent, il y a trois types de vacances. D'abord, il y a les vraies vacances. C'est les plus rares. C'est celles où vous êtes en vacances sans vos enfants. Rien d'autre à faire que de lire un bon livre sans se faire déranger toutes les 5 minutes, de prendre un petit déjeuner sans se faire voler ses tartines et d'aller à la piscine sans devoir sursauter à chaque hurlement. Et remarquez, ça marche même si vous devez travailler la journée. Ça, c'est ce que j'appelle les vacances à temps partiel. Parce que le soir, vous avez tout de même le droit de vous faire un cinéma, un resto entre amis, une soirée canapé à bouffer des cochonneries devant la télé. Bref, ce qu'on appelle plus communément la liberté. Après, il y a un second type de vacances. C'est celle que vous passez avec vos enfants. Et là, vous vous rappelez soudainement qu'une journée entière à devoir les occuper, eh ben, c'est long. Surtout quand vous avez comme moi une version avec autant d'autonomie qu'un vieil iPhone à la batterie fatiguée. Et donc vous voilà essayer d'établir des programmes d'activités culturelles dont ils se moquent, des jeux de plein air interminables, des balades où ils traînent les pieds, tout ça pour les éloigner autant que possible des écrans. Je vous jure, il y aurait des sketchs à faire sur ces parents qui essaient de comprendre les 15 pages de règles d'un tout nouveau jeu de société pendant que leurs mômes éparpillent les pions à côté. Il faut mettre en scène le drame minuscule des darons en train d'enfiler péniblement des chaussures de ski à leurs enfants en se demandant pourquoi ils ont claqué toutes leurs économies de l'hiver pour s'infliger ça en regrettant leur dernier voyage en Thaïlande.
Mais il en manque un de type de vacances. Là, le troisième, il ressemble à quoi?
Alors celui-là, c'est le dernier inventé. Il est tout beau, tout neuf et pourtant c'est le pire. C'est les vacances pour les enfants. pendant que vous, vous êtes en télétravail. Parce que vous, vous faites vite le total. Il y a 5 semaines de congés payés d'un côté, 16 semaines de vacances scolaires de l'autre. Le compte, il n'y est pas. Mais on a inventé le télétravail, pour ceux qui peuvent le faire en tout cas. On a donc inventé la possibilité de garder ses enfants à la maison pendant qu'on travaille. Ce sont les tracances. Et là, c'est une autre paire de manches. Une sorte de temps moderne, très très moderne, qui vous voit à la fois être un mauvais travailleur, incapable de se concentrer plus de 10 minutes, obligé de bosser en horaire décalé, toujours aux aguets lors des réunions en visio, et un mauvais parent, complètement débordé. C'est bien simple, vous n'êtes plus assis sur votre chaise de bureau, vous êtes assis sur tous vos principes éducatifs, à coups de plats vite réchauffés et de renonciations par facilité. Tu veux regarder 7 épisodes à la suite de Dragon Ball ? Mais vas-y, ce sera toujours 2 heures de gagner dans la journée. Résultat, votre gosse, lui, adore les vacances. Il ne veut plus jamais retourner à l'école, alors que vous, vous culpabilisez et vous guettez la libération en lui rappelant que toutes les bonnes choses ont une fin. Et heureusement d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que vous vous dites le lundi matin en les déposant à l'école. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Dans 6 semaines, ça recommence.
Merci Julien. Votre chronique Ma vie de parent est à partager, à réécouter et à repartager. Pour cela, direction le site de Radio France. Et à la une du 1, votre magazine, on retrouve quel sujet ?
Eh bien, on parle de ces femmes qui résistent, portrait de ces combattantes en France et à l'étranger qui s'élèvent contre le backlash, le retour de bâtons réactionnaires.
Avec un super poster avec un dessin de Joël Jolivet. Vous vouliez dire quelque chose, Mathieu?
Non, c'était très, très marrant.
Voilà, ça vous donne un petit avant-goût des vacances.
Non, mais c'est
que
marrant parce que
vivre.
Tu sais, tu disais, on se couche à la même heure. C'est que tout ce que j'évitais avant, avant d'avoir le gosse, maintenant c'est devenu mon rythme de vie. Je bouffe des brocolis avec lui, je me couche tôt, j'attends la sieste. Tout ce que je détestais avant, maintenant je le recherche. Et ça voilà. N'a aucun sens.
Mais si, on change de vie, quoi.
Oui, c'est
simplement.
Ça.
Voilà.
C'est ça.
Eva Rock.
Les enfants, là vous pouvez crier, mais après il va falloir être discret. Hein. Là, j'ai une idée. On va jouer au roi du silence pendant 7 heures.
Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
C'est une solution. Bertrand Husclin, un père débordé dans le film Avec ou sans enfants. Comment faire pour ne pas être débordé quand on est parent ? C'est le sujet de Grand Bien vous fasse ce matin, sujet que nous traitons avec nos 3 invités. Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie d'Aline Nativali-Damou, psychologue clinicienne, de Benjamin Muller, journaliste et auteur, et de Mathieu Madénian, comédien, humoriste et père de Milo. Milo, il a 1 an et demi, c'est ça Mathieu ?
Ouais, hein, c'est marrant pas. Les jeux là. Nous on joue à cache-cache. Je crois que ça a été inventé par les papas et les mamans, le cache-cache.
Oui. Et vous essayez de ne pas les retrouver.
Ben là on joue là.
Oui.
Là,
ah, oui.
Là, il est à la maison, je sais pas ce qu'il fait, il doit être derrière le rideau. Nous, on est tranquille.
Sachant que vous étiez en tournée déjà hier soir, voilà, ça me fait un peu peur.
Il faut le nourrir. Va le nourrir.
Je voudrais vous lire un message de Joséphine qui nous dit « Mon mari et moi avons élevé nos 3 enfants tout en travaillant à temps partiel ou temps plein. Je suis étonnée de voir dans quelle détresse les parents d'aujourd'hui se mettent. Peut-être devraient-ils oublier l'enfant idéal et le parent idéal. Ils veulent être performants. » Qu'est-ce que vous en pensez, Aline Nativelle-Edamou ?
Alors effectivement, maintenant, il y a peut-être les parents qui se mettent un peu plus de pression sur c'est quoi être un bon parent ou un parent parfait. C'est vrai que l'accès à l'information, mais aussi à la pédagogie, fait qu'il y a certains parents qui essayent de rentrer dans certaines cases. C'est pas toujours évident. Et qui perdent aussi cette confiance en eux, l'estime de soi aussi en tant que parent, et qui ont l'impression de ne pas avoir les bonnes habiletés ou compétences parentales. Donc c'est vrai qu'il y a certains parents qui se mettent peut-être davantage la pression, et puis surtout qui s'inquiètent aussi un peu plus sur le développement de leur enfant. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de connaissances sur la question de l'enfant. Donc, j'ai envie de dire, il y a du bon et du moins bon quand on a accès à beaucoup d'informations. Mais en même temps, c'est aussi bien que les parents aient accès à certaines informations. Maintenant, c'est vrai que pour le parent lambda, parfois, faire du tri, ça reste difficile, mais c'est normal aussi.
Ouais. Je voudrais qu'on donne la parole justement à une maman qui vient de nous appeler au Standard de France Inter. Bonjour Nandini.
Bonjour.
Vous avez de grands enfants, c'est ça, hein, je ne me trompe pas.
Oui, j'ai 2 enfants qui ont 18 et 23 ans.
On vous écoute, pardon, je vous ai coupé.
Alors en fait, du coup, je voulais intervenir par rapport à vos intervenants et je voulais juste dire qu'en fait, je pense qu'être parent, c'est le plus dur métier au monde. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une maman, j'ai eu l'impression d'avoir été abandonnée, mais pas elle ne s'occupait pas beaucoup de nous. C'était mon ressenti, bien entendu. Et du coup, moi, je me suis énormément occupée de mes enfants.
Ah, vous avez compensé, toujours... vous étiez en contre-modèle,
Le contre-modèle. J'ai voulu être tout le temps derrière eux, je ne leur laissais pas assez d'autonomie. Et du coup, je le regrette beaucoup parce que je vois bien que c'est le retour de la médaille. Et il faut laisser de l'autonomie aux enfants, même s'ils font des bêtises, de toute façon, c'est...
Ils en feront toujours, de toute façon, même si on les sursurveille, ils en feront quand même. On est d'accord ?
Je suis d'accord avec vous, mais en plus, il y a eu aussi cet effet de la parentalité positive. Et du coup, moi, j'ai baigné dans ça. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai allaité mes deux enfants, mais ma grand-mère ne savait pas allaiter, ma maman ne savait pas allaiter. Donc, en fait, j'étais omnibulée par l'allaitement, mais je n'avais pas d'aide de l'extérieur. Donc, il fallait que je prenne de l'aide sur les médias. J'écoute beaucoup France Inter. J'ai toujours écouté Grand Bien Vous Fasse. Donc, du coup, on n'a pas d'aide à côté de nous. Et la parentalité positive, je trouve qu'à un moment donné, c'était un peu trop.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelé, parce que on sent à travers votre témoignage que ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'on est informé et qu'en même temps on ne sait plus trop où on est et que le mot aide, il revient encore, Benjamin Miller.
Et du coup, c'est terrible de l'entendre dire, en gros, elle regrette sa manière d'avoir, alors qu'elle a fait comme elle a pu, et je suis à peu près persuadée, vu qu'elle le dit comme ça, qu'elle a été une bonne maman.
Bien sûr.
Il y a un terme que j'aime bien qui a été créé il y a quelques années, c'est les parents hélicoptères. Vous savez, le parent hélicoptère, c'est comme pour illustrer, vous avez votre enfant qui est au parc, qui joue, qui est à l'école, et le parent, il est tout le temps au-dessus, en train de voler pour surveiller, pour anticiper la moindre de ses conneries, la moindre petite chute, le moindre petit mot de travers. Et donc, pour l'enfant, ça l'étouffe, ça l'empêche de faire ses propres expériences. Et puis pour le parent, il devient complètement fou.
C'est horrible, ouais.
C'est horrible. Alors, je pense qu'on est nombreux à être là-dedans.
Ouais.
Je le dis d'autant plus que vous avez face à vous un énorme hélicoptère. Mais il faut essayer de se détacher de ça, je pense.
Vous parlez pas de Mathieu Madigny, hein, vous parliez de...
Ah non, ouais.
Moi, je suis un parent canadien. Boum, j'atterris sur lui.
C'est le Boeing.
On ne donnera pas l'adresse de la de votre enfant, mais je vous imagine en train d'être collé à la vitre. Aline Nativelle-Idamou, on ne sait plus trop quoi penser avec toutes ces théories d'éducation là, donc qu'on vient de citer. Dans votre livre, vous faites un point très clair sur les différents styles parentaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors en fait, la parentalité positive, je pense que ça a été vulgarisé pour amener une forme de compréhension aux parents, mais en fait, c'est le parent démocrate. Ça veut dire que finalement, on prend en compte quand même les besoins de l'enfant et les désirs de l'enfant, mais il y a toujours un cadre qui est bienveillant, mais qui peut être ferme. C'est-à-dire que c'est surtout ça, en fait, la parentalité positive, ce qui fait qu'il y a eu quelque chose d'incompris, je pense, sur le fait d'être un parent démocratique, c'est-à-dire qu'on peut dire non à son enfant, on peut poser un cadre, des règles, mais tout en prenant en compte toujours les besoins de l'enfant. Mais ça ne veut pas dire être dans un extrême,
oui,
de toujours mettre en avant et prioriser sur les besoins de son enfant. C'est aussi pour ça que les parents se sont un peu perdus aussi sur je m'écoute moi en tant que parent, qu'est-ce que je veux faire. Et les styles parentaux, en fait, c'est bien de pouvoir les identifier. Ça prend conscience aussi du parent qu'on est, mais surtout aussi, c'est important de se dire qu'on n'est pas figé dans un style parental. On peut évoluer en tant que parent en fonction aussi de son enfant,
bien
mais
sûr,
aussi de son histoire de vie et de ce qu'on
c'est
vit.
C'est ça, oui, de ce qu'on vit et puis de notre contexte, c'est-à-dire notre niveau de vie économique,
bien sûr,
où
oui,
on vit, comment la cellule familiale aussi, comment elle est formée. J'aimerais qu'on se termine cette émission parce qu'il est déjà 10h53 de façon un peu joyeuse. J'ai retenu quelques situations et je voulais avoir ce que vous préconisez dans ces cas-là.
J'ai
voyez
peur.
Non, je commence par Mathieu Madignan. Imaginons, il y a un match de foot à la télé, au hasard au MPSG.
Ouais.
Mes bébés dorment à proximité.
Alors non, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'écran à la maison sauf pour les matchs de l'OM,
oui,
donc il se met à côté et ma femme m'interdit de dire des gros mots. Et c'est là que j'ai vu que j'étais un bon père, c'est quand tu regardes OM-PSG et que tu peux pas insulter le Paris Saint-Germain, c'est oui, ça l'amour inconditionnel.
Mais donc il dort pas, il est obligé d'être à côté de vous.
Il regarde la première mi-temps.
D'accord.
Et je le prends dans les bras et on fait les chants marseillais, il saute, il est content et voilà.
Ça sera... Mais après, vous allez
le pire, c'est que si ça se trouve un jour, il va devenir supporter du PSG.
C'est pour ça que je me suis renseigné avec l'administration pour le rendre, s'il y a des trucs comme ça. Et ça peut exister, ça, c'est des excuses.
Après, vous le couchez,
ouais,
mais donc là, le bruit, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas crier devant votre télé,
j'ai
par
appris
exemple.
J'ai appris à hurler en silence, j'ai appris à mimer des trucs. J'entends que des râles, des trucs bizarres dans le
mais Aline Nativelle-Idamou, on le dit en le plaisantant, mais cette histoire du bruit, c'est quand même, ça fait partie aussi de ce sentiment d'être débordé quand on est avec...
Mais oui, même pendant la sieste, tu sais que pendant la sieste, on ne tire plus la chasse.
Oui, oui.
Ça fait 2 ans que je suis constipé, j'en peux plus. Non mais on ne peut plus tirer la chasse à la maison. Donc pendant 2 heures, on attend qu'il se réveille, c'est pas possible.
Alors qu'en fait, on peut faire du bruit.
Oui, on peut faire du bruit. Mais après, en même temps, ça veut dire aussi peut-être qu'on a besoin d'un petit temps de pause.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est nécessaire.
Moi, j'avais eu la chance de voir un pédiatre qui, au contraire, m'avait dit « Quand votre enfant dort, faites du bruit, continuez de faire des dîners d'inviter des gens et tout. » Comme ça, c'est un enfant qui va apprendre à dormir avec le bruit, ce qu'on a complètement fait chez nous. Je pense pouvoir dire que chez moi, c'est un bordel permanent en termes de bruit. Mais oui, du coup, nos enfants ne sont pas réveillés par des... Moi, je pense tout l'inverse, tire vachement
la
face.
Tu fais des repas chez toi et les enfants, ils dorment là-haut et c'est le bordel, ils dorment quand même.
Et je vais te dire, si l'OM marque un but contre le PSG, peut-être ça arrivera un jour. Crie justement pour habituer ton enfant.
Eh bien, on verra ça dans 15 jours. ma femme.
Attendez, autre situation, parce qu'on parlait de sport justement et de forme. Depuis que vous êtes parent, vous constatez peut-être un basculement de l'aiguille de votre balance, mais plutôt vers la droite.
Pas du tout.
Que, vous prenez quelques kilos. Non mais sérieusement, Benjamin Muller, kilos et parents débordés, ça va ensemble.
Ah ouais, ben, bien sûr. On parle souvent des kilos des femmes après pour perdre les kilos de grossesse, mais il faut parler aussi des hommes. Alors c'est la couvade, il y a une explication psychanalytique, je crois. Il y a aussi le fait que bon, ben, comme votre femme mange un peu plus, vous mangez un peu plus. Certains disent c'est le père qui se met dans son rôle, etc. Je sais pas. Toujours est-il qu'on est nombreux à avoir pris quelques kilos.
Non mais et après la naissance.
Eh ben oui, après il faut les perdre, mais Eva, c'est bon, laissez-moi tranquille.
Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que vous racontez dans votre livre que vous continuez à manger, et vous mangez comme les enfants, et vous avez pas une alimentation.
C'est sûr que comme on les généralement on les fait manger à 18h30, et puis bon bah on va goûter, et puis comme ils finissent pas, bah les petites coquillettes avec le ketchup, on le mange, et oui, on mange plus, et bon.
On finit les plats.
On finit les plats, puis on remange nous derrière, et puis c'est vrai que et puis quand ils grandissent, ils commencent à devenir adeptes de l'apéro, les enfants, les chips, etc. Donc on rachète un peu de la merde, pardon.
Ah ouais, moi il sait dire chin.
Ah ben voilà.
Voilà. Alors dès qu'on a des verres, fait chin.
C'est un bon français.
Ouais, c'est bon, là je l'ai bien.
Il y a eu une petite couvade ou pas?
Ouais, je l'ai eu. Je m'en suis pas aperçu. Je m'en suis aperçu. J'avais fait une émission de télé. Il est né en juillet. Au mois d'octobre, je fais une émission de télé sur TF1. Je fais un sketch. Bon bref. Et je me regarde jamais à la télé. Ça m'a. Enfin, tu vois. Mais des fois, je regarde ce qui se passe sur les réseaux. Tu sais, j'aime bien me faire insulter. Donc je regarde un petit peu. ça m'évite d'appeler ma mère. Et donc, et je regarde sur Twitter. Après mon passage, et en fait, je vois, le passage me plaisait, et je vois les gens qui disent « Putain, ma Daniel est sous cortisone, qu'est-ce qu'il a pu, c'est lui qui est enceinte. » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est con ?» Et j'allume la télé, et je me vois. Mais je ne m'étais pas rendu compte, je suis monté direct, et j'avais pris 6 kilos. Ben je, voilà. Je faisais 82 et mon poids de forme, c'est 76.
Vous lui raconterez tout ça à Milo plus tard.
Oui, je lui raconterai.
De toute façon, il pourra voir le spectacle. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin, tous les trois. Aline Nativelle Idamou, je conseille la lecture de votre livre. Ça s'appelle Burnout Parental et c'est aux éditions Mardaga. Benjamin Muller, on vous retrouve tous les matins dans Bonjour sur TF1. On vous lit grâce à ce dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé. C'est aux éditions HarperCollins avec les dessins de Mathieu Sapin. Et je recommande votre podcast encore une histoire bientôt sur scène, donc. Mais vous viendrez.
Ce sera le 8 juin. Et 8 juin, je vous ferai une place au premier rang.
C'est dans quelle salle?
À l'Alhambra,
à Paris. Ah,
bien, voilà. Très belle.
Et Mathieu Madénian.
Et Mathieu, si vous voulez venir, vous pourrez commander, ce sera en vente sur la Fnac.
Ah, ben voilà. Je vais. Merde. D'accord, je viendrai.
Mathieu Madénian a pleuré de rire. C'est votre spectacle. Les vendredis et samedis à 21h au Solo, c'est à Paris. Ouais. Le 26 avril à La Cigale, c'est aussi à Paris. Et en juillet, au Festival d'Avignon. Ouais, merci infiniment d'être venu.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.